Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre avec Eric Hazan, qui vient nous présenter ce soir le dernier livre publié aux éditions La Fabrique pour aboutir à un livre, La Fabrique d'une maison d'édition. Alors c'est un ouvrage qui, d'une certaine manière, fête en avance les 20 ans des éditions La Fabrique et qui se propose dès le départ d'être une espèce de guide pour les étudiants qui voudraient se lancer dans une maison d'édition, qui se poseraient les questions de comment on se lance dans l'édition et dans l'édition indépendante. Et puis à la fois, c'est quand même un ouvrage qui revient sur toute l'histoire de la fabrique, sur comment on constitue un fonds, quelles sont les rencontres marquantes qui ont fait cette maison d'édition. Et puis c'est l'occasion aussi de revenir un peu sur ton histoire, Eric, et sur comment tu es rentré dans l'édition. Alors, vu qu'on a, j'ai prévu beaucoup de questions et qu'on n'a pas tant de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet. La Fabrique est fondée en 98, mais c'était pas ta première expérience d'éditeur. Tout avait commencé en 1983 quand tu as repris les éditions de ton père, les éditions Hazan. Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre les éditions à ce moment-là, qui sont des éditions d'art, les éditions Hazan?
Bon, en fait, jusque-là, j'étais chirurgien et puis j'ai décidé d'arrêter la chirurgie et de m'engager dans une voie tout à fait différente. Et à ce moment-là, évidemment, le fait d'avoir cette maison d'édition qui était créée par mon père et qui fonctionnait, c'était un bon parachute pour quitter la chirurgie, pas pour rien, mais pour embringuer dans cette branche de l'édition à laquelle je connaissais rien d'ailleurs.
Quel était l'état du secteur éditorial à cette époque-là, qui est quand même très différent de ce qu'il y a aujourd'hui?
Ah oui, on peut dire que dans les années, là on parle de 83, mais c'est vrai, presque jusqu'en 2000, c'était encore, au fond, c'était pas si loin de ce que c'était au début du siècle, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, non, c'est pas tout à fait vrai, il y avait quand même deux très grands groupes. Il y avait Hachette, qui venait d'être racheté par Lagardère, et qui était une très grosse maison, la plus grande. Et puis, il y avait un autre groupe dont le nom a varié au cours du temps, qui s'appelait tantôt Havas, tantôt machin, et qui a fini par s'appeler Vivendi Universal Publishing, entre les mains de Jean-Marie Messier. Vous en souvenez peut-être, pas les plus jeunes, mais Jean-Marie Messier, c'était un personnage un peu décoiffant. Et quand Vivendi Universal a capoté, J'abrège, c'est devenu Editis. Et aujourd'hui, ça s'appelle Editis. C'est un groupe, c'est le deuxième groupe français. Enfin, français. C'est le deuxième groupe qui appartient à des Espagnols. Planeta, qui est le Hachette espagnol. Hein, Editis, c'est un très grand groupe. Hein, y a Larousse, il y a Plon, il y a plein d'éditeurs. Donc, il y avait ces deux grands groupes. Et puis, il y avait des grandes maisons indépendantes, Gallimard, Flammarion, Le Seuil, Alba Michel, et voilà. Et c'est en 2000 que a commencé la concentration capitaliste, tous les grands mouvements de capitaux qui ont fait qu'aujourd'hui, finalement, tout est beaucoup plus concentré, énormément plus concentré que ça n'était il y a 20 ans. Ça a commencé avec le rachat du Seuil par La Martinière. Et puis, tout le monde a racheté tout le monde. Et aujourd'hui, tout est extrêmement, extrêmement concentré en peu de mains. Donc, le paysage éditorial a énormément changé.
Donc, quand tu étais chez Hazan, tu as vendu la maison à Hachette. Pourquoi ce choix? Pourquoi Hachette plutôt qu'un autre groupe, d'ailleurs? Et finalement, qu'est-ce qui a motivé, finalement, les ventes?
On était au bord du gouffre financier. C'est-à-dire qu'on faisait des livres de plus en plus beaux. On a fait des livres formidables. Et on était de plus en plus endettés. Et dans les années 90, vers le milieu des années 90, la position des banques par rapport à l'édition a totalement changé. Jusque-là, quand on allait voir le type qui dirigeait la grande agence de la BNP, où il y avait énormément d'éditeurs qui étaient clients de cette agence, ce type-là, on ne discutait pas argent avec lui. Il se vivait comme un mécène. C'est-à-dire, quand on entrait, on disait « Ah, vous préparez un masaccio, c'est formidable, ça. Hein? » Et puis, le sujet pour lequel on était venu, pour lui demander un prêt, ça, c'était au moment de partir, sur le pas de la porte, il disait « Oui, pour ce que vous m'avez demandé, bien sûr, bien sûr. Hein, » ça se passait comme ça. Et vers le milieu des années 90, il y a eu une crise que les plus jeunes n'ont pas connue, mais il y a eu, dans les années 91-92, après la première guerre du Golfe, il y a eu une crise très grave, en particulier dans le domaine de l'immobilier. Et les banques se sont retrouvées avec des cajots de créances douteuses. Et les créances douteuses ont été pourchassées. La BNP est passée dans les mains de Pébro. Et du coup, le mécène a giclé. Et on s'est retrouvés avec des jeunes gens en costume de flanelle, à lèvres minces et avec lesquels on ne pouvait plus discuter peinture. C'était votre découvert. Il est trois fois celui auquel vous êtes autorisé. Alors, quelles mesures comptez-vous prendre ? Alors, on ne pouvait pas plaisanter avec ces gens-là. On ne pouvait pas leur dire, on va imprimer des très beaux billets. Non, 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 ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas du tout, ce n'était pas possible. Alors, finalement, on était au bord du dépôt de bilan. Alors, pourquoi Hachette ? C'était Hachette ou ce qui s'appelait à ce moment-là CEP. J'ai choisi Hachette, je ne sais plus pourquoi. C'était entre peste choléra, quoi. C'était à peu près équivalent.
Et qu'est-ce qui change, du coup, dans ton travail à ce moment-là ? Parce que j'imagine que passer d'une maison indépendante où tu avais la main sur tout à travailler pour Hachette, donc tu avais des objectifs à rendre.
Je suis resté... Oui. Des objectifs... C'était flou. C'était flou. En fait, c'était des très mauvais, quoi. Les gens à qui j'avais affaire étaient archi mauvais. Moi, je pensais apprendre des choses en disant que je pensais que ce grand groupe, il y avait là-dedans des gens qui allaient m'apprendre des choses. Pas du tout. Pas du tout. Et ça s'est tendu petit à petit. Au début, je me disais, mais pourquoi pas, au fond ? Pourquoi pas ? Pourquoi on ne s'entendrait pas avec ces gens-là ? Mais j'ai assez vite compris, finalement. Parce que ce qu'ils me proposaient comme mesure de redressement, c'était du genre... deux boîtes de trombone, non. Une. Et puis, des tickets restaurants pour les stagiaires, non. Voilà, c'était ça, l'idée. Alors, et puis, les livres... Les projets, il fallait que chaque projet ait un budget prévisionnel qui montre qu'il va être en équilibre dans l'année. Or, les livres d'art, ce n'est pas possible. Les livres d'art, c'est des bouquins à vente lente qui deviennent rentables au bout de plusieurs années. Donc, finalement, beaucoup de projets étaient refusés. Alors, finalement je suis parti.
Alors, tu es parti pour fonder la Fabrique. Qu'est-ce qui t'a fait passer d'une maison donc, vraiment orientée beaux-arts à une maison qui est plutôt orientée sciences humaines, même si le terme te déplaît ?
J'avais essayé, aux éditions Azan, par le biais de la photographie, d'aller un peu vers la politique. Mais c'est quand même limité. On est quand même dans un corset, dans une maison d'édition d'art. Et là, je me suis dit, voilà, on va faire une maison d'édition politique. Et c'était ça, l'idée de la Fabrique. Une maison d'édition qui fait entendre des voix différentes, divergentes, opposées au discours dominant. C'était ça, le projet.
Est-ce que tu avais des textes à publier quand vous avez fondé, puisque tu n'étais pas tout seul dans cette histoire au début ?
Non. En fait, on était deux, Stéphanie Grégoire et moi, qui étions vraiment le noyau central de la Fabrique débutante. Et puis, il y avait un cercle d'amis autour qui ont beaucoup contribué au début. Mais est-ce qu'on avait des textes prêts au moment où on a fondé la Fabrique ? Non. Très vite, on a eu, Mais au début du début, on n'est pas arrivé, on n'a pas fondé la fabrique avec des manuscrits sous le bras, non. Mais très vite, on a fait la rencontre de Jacques Rancière et il nous a une rencontre tout à fait déterminante et qui continue. Hein, d'ailleurs, on continue avec lui depuis lors à publier régulièrement son travail. J'espère qu'au début de l'année prochaine, il y aura un nouveau livre de Rancière à la fabrique. Quand je dis j'espère, parce qu'il est en gestation un peu difficile, mais je pense qu'il aura lieu. Donc Rancière, il avait un bouquin en déshérence, un bouquin qu'il avait donné à un éditeur qui avait fait faillite et le bouquin n'était plus disponible. Alors il nous a dit, il nous a fait confiance, ce qui était assez remarquable d'ailleurs parce qu'on n'était rien du tout, quoi. On n'avait pas de catalogue, pas de distributeur, on n'existait pas. Il a dit, allez-y avec ça. Et ça a été au bord du politique. Donc... C'est un des deux livres qui ont paru à l'automne 98, quand la maison étant fondée au printemps.
On va passer sur la partie, plutôt sur l'histoire, sur la fondation d'une maison d'édition, puisque c'est ce que propose aussi cet ouvrage. Et la première question, elle est triviale, mais elle est quand même très importante. Combien faut-il d'argent pour se lancer ?
Alors, c'est une question à deux étages, à deux niveaux, il y a deux réponses. Première réponse, il ne faut pas beaucoup d'argent. Il faut, disons, de quoi financer les deux, trois premiers bouquins. C'est-à-dire, moi, je dirais qu'avec 10, 12 000 euros, si on arrive à réunir 10, 12, 15 000 euros, ça va. Un bouquin 5, 6 000 euros, on y arrive, hein. Donc ça, c'est optimiste. En revanche, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'une maison d'édition qui démarre, genre la fabrique, elle ne va pas pouvoir payer de salaire, on ne va pas pouvoir en tirer d'argent pour vivre avant des années. Donc, il faut prévoir que les gens qui font tourner cette boutique, il faut qu'ils aient de quoi vivre par ailleurs. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui aient à la fois du temps, parce qu'il faut du temps pour les faire, les livres, hein, ils ne se font pas tout seuls. Il faut qu'ils aient du temps et il faut qu'ils aient par ailleurs de quoi vivre. C'est-à-dire un boulot ou un oncle d'Amérique ou... voilà. Donc c'est la vraie difficulté, elle est là. Elle n'est pas tellement dans le pognon qu'il faut mettre avec l'imprimeur pour fabriquer les premiers livres. C'est pas la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est comment vivre avec une maison d'édition démarrante qui démarre. Comment arriver à mettre du riz dans le bol pendant le temps qu'il faut avant de payer des salaires.
Et pour en arriver à là, il faut trouver des partenaires importants qui sont à la fois un comptable et un banquier. Et tu dis dans le livre que c'est les rapports avec les banques, il faut les voir comme un rapport. C'est eux le client et c'est toi qui choisis en fait, de ne pas se laisser avoir.
Je pense que si je me mettais dans la peau d'un donneur de conseils, je dirais à quelqu'un qui démarrerait dans ce métier... Débrouillez-vous pour ne pas avoir un franc de dette aux banques. Parce que les dettes aux banques, on n'arrive jamais à les rembourser. Et finalement, au bout d'un moment, quand on a des dettes aux banques, la maison ne vous appartient plus. Elle appartient à vos banquiers qui en feront un jour ce qu'ils voudront. C'est-à-dire qu'ils vous pousseront à la vendre. Ils se débrouilleront d'une certaine manière pour récupérer leur pognon, mais à votre détriment. Donc, c'est une règle à la lumière... de ce que j'avais vécu chez Azan, où je m'étais progressivement endetté jusqu'au gouffre, là, à la fabrique, on n'a jamais eu un franc d'agio, on n'a jamais eu de découvert bancaire, on n'a jamais été dans le rouge. Si on ne peut pas payer, on réduit la voilure, on repousse les projets, on se débrouille autrement, mais pas de dette aux banques. Il faut considérer le banquier comme Oui, comme un fournisseur, mais se mettre dans la situation d'avoir le 30 du mois à téléphoner au banquier en disant l'échéance, ça va être un peu tangent, hein, ça, c'est la mort. D'abord, c'est déjà, on ne dort plus, c'est ce qui est quand même pénible. Et ensuite, c'est le désastre assuré, quoi. Il ne faut pas avoir de dette aux banques si on veut être une maison d'édition indépendante et le rester.
Comment on jongle justement sur un prévisionnel, sur un texte où on est à peu près sûr qu'il rencontrera un public par rapport aux ventes des précédents ouvrages de l'auteur, et des textes plus compliqués, puisque la fabrique, même s'il y a des ouvrages qui ont eu un grand succès, ou en tout cas des ventes qui durent en fait, surtout ça, c'est quand même des ouvrages qui se vendent et qui connaissent un succès au bout d'un certain temps. Comment on jongle justement quand on sait ou qu'on peut avoir la mauvaise surprise sur certains textes de savoir que ça intéressera moins de monde, ou en tout cas moins de monde rapidement, pour quand même continuer à sortir ces ouvrages-là sans trop se mettre dans le rouge?
Il faut les doser. Les livres dont on sait qu'ils ne vont pas avoir de presse et on va avoir du mal à les vendre, il ne faut pas que dans une saison, parce que disons qu'on publie à la fabrique à peu près une douzaine de bouquins par an, hein, maintenant. Au début, on en faisait quatre. Hein. Mais maintenant, on est sur un rythme. On est trois dans 40 mètres carrés. On publie une douzaine de livres par an. On ne peut pas faire plus. Donc, deux saisons de six à peu près. Hein, une saison de printemps, une saison d'automne, si vous voulez. Donc, il ne faut pas que sur les six livres du printemps prochain, il y en ait quatre... qui soit de vente aléatoire, difficile. Il faut doser, il faut se débrouiller pour que les livres auxquels on tient, tout en sachant qu'ils vont avoir pas beaucoup de succès, pas beaucoup de ventes et pas de presse, on y tient parce qu'on considère que politiquement, ce sont des livres qui doivent exister. Il faut les doser. Sur les six, s'il y en a deux, ça va. S'il y en a quatre, ça va pas. Voilà. On équilibre les programmes de cette façon.
Est-ce qu'il y a eu de belles surprises, hein, justement des ouvrages qui n'étaient pas promus à un succès en librairie et qui...
Oui. L'insurrection qui vient, bon, évidemment, ça a été très aidé par les pouvoirs publics. On peut dire que Madame Alliot-Marie, Alain Boert, ont beaucoup fait pour le succès de ce livre. Mais il a quand même marché avant... les événements avant Tarnac. Hein. Parce que le livre a été publié au printemps 2007. Les événements de Tarnac, c'est novembre 2008. Et pendant cet intervalle, on en avait quand même vendu 7 ou 8 000. Entre nos mains, 7 ou 8 000 exemplaires, c'est très, très bien. On considère qu'un bouquin qui se vend à 3 000, ça va. Un bouquin qui se vend à 7 ou 8 000, c'est très bien. Donc voilà un exemple de succès inattendu, fortifié par la suite, mais quand même inattendu. Comité invisible, personne ne savait qui c'était, l'insurrection qui vient, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce livre marche si bien. On ne s'attendait pas à ce qu'il résonne tellement avec ce qu'il y avait dans la tête des gens à ce moment-là.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des ouvrages pour lesquels vous étiez sûr de rencontrer un succès, somme toute estime, et qui se sont vraiment cassés la gueule. Hein.
Oui. Oui. Des échecs immérités, il y en a. C'est pas fréquent. Des livres où on dit c'est un bon livre, ça va marcher, et patatrac, ça marche pas du tout. Par exemple, nous avons publié un livre d'un auteur anglais qui s'appelle Ian Birchall. Ça, c'est un livre sur Sartre et l'extrême-gauche française après la guerre. C'est un formidable bouquin, et sur Sartre, et sur l'époque, et qui ramène à la mémoire des tas de personnages de cette époque qu'on a complètement oubliés. C'est un livre où on apprend énormément de choses, qui est très agréable à lire. Flop. Et ça, des libraires, parce qu'on a des libraires amis à qui on demande leur avis, ça va. je me rappelle très bien qu'une libraire à laquelle, dont la vie compte pour moi, elle m'avait dit « Sartre, ça ne marchera pas ». Je lui ai dit « Comment Sartre, ça ne marchera pas ?» Elle me dit « Sartre, ça ne marche jamais ». Je lui ai dit « Oh, quand même ». Eh bien, elle avait raison. Flop retentissant. Et cher, là, parce que c'était une traduction...
Alors, avant d'arriver sur les librairies, donc il faut un comptable, il faut un banquier. Est-ce qu'on a besoin d'un local hein?
Oui, au bout d'un moment. On a le droit, je ne sais pas quelle est la loi aujourd'hui, mais à l'époque, on avait le droit pendant 2 ans que le siège social soit chez soi. Et pendant 2 ans, c'était chez moi, dans l'appartement. Finalement, il faut quand on publie 2 ou 3 bouquins par an, on peut le faire. Hein. À 12, non. Mais à 2, 3, on y arrive. On y arrive. Ensuite, on a déménagé dans 15 mètres carrés au 5e sans ascenseur. Là, c'était assez dur pour monter les livres. Hein. Et là maintenant, on est au rez-de-chaussée dans ouais, à peu près la moitié.
Comment vous avez choisi un diffuseur parce que vous êtes diffusé par les Belles Lettres, vous avez toujours été diffusé par les Belles Lettres, la fabrique. Qu'est-ce qui a justifié ce choix-là?
Pour une maison d'édition de la taille de la fabrique, il n'y a pas grand choix.
Il y a Harmonia.
Mais on a fait un passage chez Harmonia. On a été aux Belles Lettres. C'est les Belles Lettres qui nous ont... Il y a les Belles Lettres et Harmonia Mundi. Il y a 2 distributeurs. Distributeurs-diffuseurs. Il y a la distribution et la diffusion. Hein. La distribution. La diffusion, c'est le côté... C'est les représentants qui vont voir les libraires, qui leur parlent des livres et qui prennent les commandes. Et la distribution, c'est le paquet, les ficelles, les factures, la logistique, comme on dit. Hein. C'est, généralement, en France, c'est la même boîte qui fait les deux. C'est pas vrai en Amérique, par exemple. Aux États-Unis, il y a un diffuseur et un distributeur. Et le distributeur, il peut distribuer aussi bien des yaourts. C'est tout à fait logique, d'ailleurs. Pourquoi les Belles Lettres? Ben, on avait le choix entre deux, on est allé aux Belles Lettres. Ensuite, on a quitté les Belles Lettres et on est allé à Harmonia Mundi, qui était dirigé par un homme très vieux, et épatant. Et puis, comme souvent les gens très vieux, il est mort. Et à partir de ce moment-là, ça n'allait plus. Donc, je suis revenu aux Belles Lettres. Et c'est très bien. C'est très bien. Les représentants sont formidables. Je pense que vous ne me démentirez pas.
On aime beaucoup notre représentant Belles Lettres ici.
Oui. Mais ils sont tous très bien. Ce sont, pour beaucoup d'anciens libraires, ce sont des gens cultivés qui lisent les livres. Qui sont politiquement assez proches de nos positions dans l'ensemble et avec lesquels on s'entend vraiment très bien. Et je pense qu'ils font le maximum pour que nos livres soient visibles, soient bien répartis dans les librairies.
On arrive justement au texte avant que ça devienne un livre imprimé. Est-ce qu'il y a un comité de lecture ? À la fabrique. Est-ce que le comité de lecture, c'est juste les 3 personnes qui travaillent quotidiennement?
On a eu à un moment donné quelque chose qui n'était pas vraiment... On a eu pendant longtemps quelque chose qui n'était pas vraiment un comité de lecture. Comité de lecture, c'est Gallimard, quoi. C'est un truc très, très, très formel. Et... Là, c'était quelque chose de plus flou. C'était un dîner tous les 2 mois... où on discutait. Puis finalement, on a arrêté et le comité de lecture, oui, c'est nous 3. Il y a 2 salariés et moi, les 2 autres beaucoup plus jeunes, moins de la moitié de mon âge. Et voilà. Alors, comment on choisit? Chacun de nous 3 apporte des idées. Et il dit, ah, ça serait bien de faire ça. Il dit, tu crois? Alors on discute, on lit, quand il y a quelque chose à lire, hein, quand il y a un manuscrit à lire, quand il y a On lit, on discute, et finalement, on arrive toujours à se mettre d'accord. Moi, j'impose rien. Il y a des livres que j'aurais pas fait, à tort ou à raison, souvent à tort, que j'aurais probablement à tort pas fait. Mais si les deux autres sont pour, je dis d'accord. Quand un de nous trois est absolument opposé, on fait pas. On n'en arrive jamais à voter, bien sûr. Mais quand un de nous trois dit, écoutez, non, vraiment, ça, faut pas. Alors, les deux autres s'écrasent. Ça marche, c'est la palabre. Il n'y a rien de constitutionnel.
Les ouvrages que vous publiez, ce sont des travaux de commande ou est-ce qu'il y a aussi une part de manuscrits reçus par la Poste, d'auteurs que vous ne connaissez pas ou vous connaissez
très peu
de loin, mais...
Par la Poste ou par Internet, des gens qu'on ne connaît pas, pas une fois par an. Disons une fois par an. On en reçoit de 5 à 10 par semaine. On répond toujours, on n'a pas de lettre type. On essaye de répondre de façon personnelle aux gens. Mais ça va vite. On passe pas des heures, on regarde une histoire globale de la philosophie depuis Anaximandre jusqu'aux pommes de terre nouvelles par un vieux professeur de philosophie. On lui dit vraiment non, on voit pas très bien ce que ça apporte de neuf. On essaye. Enfin, moi, pour ma part, je dis ce que je pense. Et au fond, curieusement, les gens remercient. On refuse, mais les gens remercient en disant merci de votre franchise et de voilà. Une fois par an, il y a un texte qui arrive et on dit. Alors c'est généralement pas un texte à publier tel, mais là on fait venir, on discute avec le gars ou la femme qui l'a envoyé et on dit si ton manuscrit qui fait 2 kilos, là, si tu le réduis à 250 grammes, et si tu changes site, et si tu fais ça, on publie. Ça arrive. Par exemple, on a publié un livre très très bien sur la guerre civile et la résistance en Grèce dans les années 43-44. Eh bien, c'était un truc qui est arrivé par la Poste. C'était un énorme manuscrit, on lui a fait couper un fond, on lui a fait retravailler, mais finalement le livre est très bien et a marché raisonnablement.
Comment se passe la réception d'un manuscrit, même sur une commande, à partir du moment où l'auteur vous livre son texte? Est-ce que vous faites des coupes, vous le retravaillez ensemble ou vous faites des
propositions? C'est variable. Il y a des gens qui envoie des manuscrits où il n'y a pas une virgule à changer. Rancière, dont on parlait, on peut dire qu'il n'y a pas une virgule à changer à ce qu'il envoie. Enfin, peut-être deux queues de cerise, quoi. Une expression un peu bizarre, je ne comprends pas ce que tu as dit, là, alors il change, sans discuter. Mais dans l'ensemble, c'est des textes qu'on ne retravaille pas. Il y a quelques auteurs. En général, d'ailleurs, ce sont... des gens qui remettent le manuscrit à l'heure et enfin qui voilà des gens, des auteurs parfaits, quoi, des perles. Quand on a des comme ça, il faut vraiment les cultiver. Mais dans l'ensemble, on retravaille. Alors c'est il y a deux types de retravail sur un texte. Un qui est au fond pas très pénible, qui est Quand l'architecture du texte, disons la table des matières, le découpage, il n'y a pas de problème, c'est dans l'expression, c'est dans l'écriture. il y a des lourdeurs d'écriture. Ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile. Ça se fait presque les yeux fermés. En revanche, le retravail difficile, c'est quand on sent qu'il y a la matière, il y a de quoi faire un bon livre, mais l'architecture, ça ne va pas du tout commencer à organiser. On ne comprend pas. Ça démarre le chapitre 2, on ne voit pas ce qu'il fout là. Alors, il faut tout réagencer. Ça, c'est très difficile et fatigant.
Ça se passe comment avec les auteurs quand vous leur proposez les corrections ?
Toujours bien.
Toujours ? Il n'y en a aucun qui refuse quand je modifie justement un chapitre ou un... Enfin, modifie, qu'on change la place, en fait.
Non, ils sont contents. Ça, jamais on a eu de difficultés. Jamais. Ben, c'est-à-dire, avant de signer le contrat, quand on a un texte comme ça dont l'architecture ne va pas, avant de signer le contrat, on se met d'accord. On dit, oui, on le publie, mais tu es d'accord pour qu'on retravaille. Et la réponse est toujours oui. Et comme on propose des choses qui sont visiblement des améliorations, manifestement des améliorations, dans l'ensemble, ils sont contents, même ils remercient du travail. Ils sont contents. Non, ça se passe toujours bien, ça. J'ai pas souvenir qu'on ait jamais eu de conflit avec un auteur qui se cramponnerait à son texte. Mais encore une fois, il y a un accord de principe. Mmh.
Par contre, tu dis dans ton texte que tu fais relire certains textes par un avocat, justement, puisque sur certains sujets, sur certains textes, hein, pas sur tous, mais que sur certains sujets qui peuvent prêter à polémique ou à d'éventuels procès. Et est-ce que ça vous arrive, est-ce que l'avocat, justement, dans ce cas-là, vous dit, ça, il faudrait peut-être le remanier, histoire de calmer un peu les esprits ? Ou est-ce que tu fonces quand même en disant, non, c'est la volonté de l'auteur et on le soutient là-dedans ?
Il y a des textes qu'on fait relire parce que l'avocat, il va pas dire... Non, il peut dire, fais gaffe avec ce livre, il y a des ennuis potentiels. Non. Ça ne nous a jamais arrêté. On n'a jamais dit, alors on ne le publie pas. Ça ne nous est jamais arrivé. En revanche, en lisant le livre, s'il dit cette expression-là, ça c'est mauvais. Moi, on n'est pas contre les procès. Moi, je suis pas contre les procès, mais contre les procès qui sont forcément perdus parce qu'on a, au décours d'une phrase, lâché un truc malencontreux, ça, faut l'éviter. Enfin, on fait jamais d'autocensure des livres. Il peut arriver que l'avocat nous dise ça serait bien que cette phrase-là, vous la rédigiez autrement. Voilà. C'est ça.
Et ça arrive souvent, ce genre de choses ?
Non. Non. Je pense, par exemple, une fois, je crois que c'était un livre que j'avais écrit moi. J'avais mis une phrase en disant... C'était sur l'antisémitisme. Et j'avais écrit le CRIF, virgule, ce Judenrat français, virgule, Les Judenräte, c'était les conseils juifs créés par les Allemands après occupation. Ils faisaient un conseil juif avec des juifs collabos dans un coin pour tenir la population juive au calme avant de l'envoyer ailleurs. Et ben, il m'a dit ça, non. Bon, on l'a enlevé. Ça ne va pas gêner. C'est ce genre de choses-là. Voilà. Ou un bon avocat, il peut vous éviter de perdre des procès.
On va passer sur la construction d'une identité. Vous avez la fabrique quand même une maquette qui est de couverture qui est quasiment la même, en fait, les couleurs changent, mais qui est quand même très, très reconnaissable. On vous repère de loin quand même sur les tables. Qu'est-ce qui a justifié ces choix de maquette et de couverture?
Ça, c'est une personne. C'est un garçon qui s'appelle Jérôme Saint-Loubert. C'est lui qui a dessiné ça dès le début et on n'a rien changé. Maquette de couverture, maquette intérieure, on n'a rien changé depuis bientôt 20 ans. On n'a pas de collection. On a deux formats simplement, un grand et un petit pour les textes courts. Et en dehors de ça, il n'y a pas de collection et tous les livres sont les mêmes, avec des couleurs qui varient. Alors, il a beaucoup contribué à l'identité, là, pour le coup, en faisant ça, parce que c'est simple et ça se repère de loin.
Le fait qu'il n'y ait pas de collection, c'est une volonté dès le départ ou c'est par la force des choses qu'au bout de 5 années de publication, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de volonté de faire des collections ou même des sous-labels à la fabrique?
Je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est voulu. Oui, oui. C'est voulu. Finalement, on aurait pu faire histoire, une collection philo, mais finalement, comme on a démarré tout petit, ça aurait été un peu ridicule de faire une collection histoire qui aurait eu un titre et demi. Finalement, on a mis tous les livres dans le même sac.
Comment s'est constituée la ligne éditoriale? C'est-à-dire qu'il y a, on le voit maintenant avec le recul, c'est une 150aine de titres qui ont été publiés. Il y a quand même de grandes lignes qui sont quasiment comme des collections finalement, enfin avec des thématiques qui reviennent. C'est pas anodin de republier Blanqui, voire même déjà avec Tikkun et le Comité Invisible, tous les textes autour de la Palestine. Il y a quand même des collections, enfin en tout cas des thématiques,
des lignes. Des axes. En fait, ça c'est construit petit à petit. Et l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui d'avoir un catalogue cohérent, ça s'est vraiment construit essentiellement par des rencontres. La rencontre de Rancière dont j'ai parlé au début, c'est vraiment une rencontre qui nous a aider à construire un axe philo. Après, une rencontre déterminante pour moi avec ce grand intellectuel palestinien qu'était Edouard Saïd, ça m'a permis de comprendre. En discutant avec lui, j'ai enfin compris que j'avais rien compris jusque-là. Que toutes les idées que j'avais et j'en avais des idées sur la Palestine parce que c'est un sujet qui me travaille depuis très longtemps, depuis les années 70. J'ai été impliqué dans des affaires autour de la Palestine, mais je n'avais pas bien compris. Et en discutant avec Saïd, j'ai compris, et en publiant son livre qui s'appelait « Israël-Palestine, l'égalité ou rien », j'ai compris que les accords d'Oslo étaient un désastre, ce qui n'était pas du tout évident à cette époque, pas encore évident à cette époque, que Arafat, ce n'était pas Mandela et qu'il fallait voir les choses de façon tout à fait différente. Et ça aboutit, par exemple, au livre publié par Eyal Sivan avec ma collaboration qui s'appelle « Un état commun entre le Jourdain et la mer ». Donc la rencontre avec Edouard Saïd, la rencontre avec André Chiffrin, qui était, parce qu'il est mort, c'est une très mauvaise idée, il est mort il y a 2 ans. On a publié 3 bouquins de lui, et ça nous a incité à publier une série d'ouvrages sur la question du livre, dont celui-là est le dernier en date, mais on a publié pas mal sur le livre. Voilà, donc ce sont des rencontres qui ont poussé à continuer dans certaines directions. Donc c'est vrai, aujourd'hui, on a un axe philo, un axe histoire, un axe Palestine, un axe situation française, un axe, voilà, des axes qui se sont constitués au fil du temps et au fil des rencontres. Je crois que l'idée d'un éditeur un peu héroïque, quoi, d'une espèce de type génial qui fonderait une maison avec tout dans la tête, ça n'existe pas, ça. C'est vraiment au fil du temps. Et encore une fois, les rencontres et les amitiés, c'est extrêmement déterminant.
Alors, ce qui est déterminant aussi, c'est les inimitiés auxquelles vous avez droit, ou vous avez eu droit déjà quasiment dès le début, et à la publication du texte de Saïd et ensuite les autres textes sur la Palestine. Comment faire face quand on se lance, quand on est un jeune éditeur, justement à l'absence de plans médias, de communication, que ce soit de la radio ou des journaux qui tout d'un coup veulent plus parler de vos ouvrages à cause d'un texte qui a été publié, voire même 10 ans plus tard?
Comment on fait? Ben, on fait avec. Hein. C'est vrai que nous avons pas beaucoup de presse. On a quelques amis ici et là fidèles. Je crois que un journal comme Politis nous soutient régulièrement, parfois Mediapart. Mermet nous a beaucoup soutenus quand il était à France Inter. Quand j'allais le voir une fois par an en lui disant il faut nous aider sur ce livre-là, il le faisait, il invitait l'auteur. Et une émission de Mermet, c'était très bien. Et puis on a quand même de temps en temps ici et là un papier à droite à gauche, mais dans l'ensemble, on a une couverture de presse qui est faible parce que, au fond, il y a deux raisons. La première raison, c'est que nos positions politiques ne sont pas aimées, quoi. Nos positions sur la Palestine, nos positions sur l'islam en France sont des positions qui ne sont pas celles de même des journaux réputés, supposés de gauche. Ça, c'est une raison très importante. On a même des gens qui nous censurent systématiquement. Je sais qu'au Monde, au journal Le Monde, je n'envoie plus de livres. Ce n'est pas la peine. C'est 2,50 € de timbre, plus le coût du bouquin. Tiens. Non, vaut mieux les boire. Hein. Non, c'est vrai. Donc, au Monde, je n'envoie plus de livres. Donc, il y a un côté politique. Mais il y a aussi les conditions de travail des journalistes. Prenez par exemple... Je sais pas, on vient de sortir un gros bouquin qui doit faire 580 pages, qui s'appelle « Les bolcheviks prennent le pouvoir » sur la révolution en 1917 à Petrograd. Un bouquin comme ça pour un journaliste, pour faire un vrai papier là-dessus, il faut le lire, 500 pages, il faut réfléchir, écrire... C'est quasiment 15 jours de travail. Aujourd'hui, un journaliste ne peut plus faire ça. Leurs conditions de travail excluent de passer vraiment du temps. Alors, au mieux, il va... Enfin, ce qui se passe d'habituel, c'est qu'ils ne lisent pas le texte, ils regardent la quatrième de couverture et ils font 10 lignes qui paraissent... ce qui n'a aucun intérêt. Donc, les conditions de travail des journalistes pour les livres exigeants empêchent aujourd'hui d'avoir des articles substantiels parce qu'on ne leur donne pas la place et on ne leur donne pas le temps. Il n'y a pas en France, ça n'existe pas, l'équivalent de ce qui existe dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, il y a la London Review of Books. Aux États-Unis, il y a la New York Review of Books. Ou sur un bouquin comme celui-là, comme celui sur les bolcheviks, là, eh bien, quelqu'un ferait un article de 4 pages, 3 colonnes, un article de 30, 40 000 signes. Il y passera le temps qu'il faut. Et cet article, non seulement fera la critique du livre, mais fera un point de vue général sur la question dans la littérature. Et ce sont des articles où on apprend quelque chose. Ça n'existe pas en France. C'est une grosse lacune.
Donc reste le travail des libraires ensuite pour faire vivre les ouvrages. Est-ce que vous faites des tournées en librairie avec l'équipe ? Est-ce que, bon là c'est exceptionnel hein, puisque vous venez présenter ce livre, mais pour accentuer en fait le travail que peuvent faire les représentants ?
Oui. Tu veux dire des présentations ou
des présentations, des... même de juste des présentations informelles, c'est-à-dire pas comme ce soir, mais plutôt une présentation comme ben, je serai dans telle ville à tel moment, est-ce qu'on peut se rencontrer, voir si
oui.
Il y a des choses que vous voulez savoir un peu plus oui. Sur le fond, sur le catalogue.
Oui, oui. Je le fais. Je le fais, pas tout le temps, mais il n'y a pas longtemps, je suis allé passer 3 jours à Lyon, j'ai rendu visite aux amis libraires de Lyon, je leur ai expliqué ce qu'on allait faire, on discute, on prend un café. C'est à la fois très agréable, on est toujours bien reçu. Toujours bien reçu. C'est agréable et on apprend des choses parce qu'ils ont l'expérience et on leur explique et on le fait, je le fais pas assez souvent. Beaucoup à Paris. Les librairies de Paris, je les fréquente beaucoup. C'est plus facile. Hein. Mais en dehors de Paris, j'essaye de le faire assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement, j'exagère. J'essaye de le faire quand je peux.
On va passer sur une autre question. Sur la question du numérique. Parce que c'est une question qui n'est pas, enfin, très peu abordée dans le livre. Et c'est quand même une question qui est d'actualité, notamment pour les étudiants à l'UIT. C'est quelque chose qui, moi déjà, quand j'étais à l'UIT il y a 6 ans, on nous parlait en nous disant que le numérique, ça y est, c'était maintenant. 6 ans après, finalement, c'est toujours pas là, ou en tout cas pas aussi présent que ça devait l'être. Donc, en fait, quel a été le choix en fait, de toute l'équipe par rapport à justement la numérisation des ouvrages et à la vente sur Internet de ces ouvrages-là, une fois qu'ils sont en numérique. Hein. Puis après, on parlera d'Amazon aussi.
On a commencé, il y a maintenant 18 mois, à numériser, à sortir tout le catalogue en EPUB, en livre numérique. On le fait. J'ai longtemps hésité. Ce qui me gênait, c'était... En me disant, les libraires, ils ont une marge minime. Ils sont tous tangents financièrement. Si on leur balance les livres numériques sur lesquels ils ne peuvent pas, eux, les libraires ne peuvent pas gagner de l'argent, ça peut peut-être leur baisser leurs chiffres. Et les précipiter dans la catastrophe. Mais finalement, d'abord, nous ne sortons les livres numériques que 18 mois après la sortie en librairie. Donc l'effet nouveauté est épuisé à ce moment-là. Et puis finalement, les ventes sont nulles.
Pas une seule vente, hein.
Si.
Mais c'est ridicule.
Si, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça ne paye pas les cigarettes, hein. Non, c'est très, très, très peu. Et on n'est pas les seuls. C'est général. En France, la vente des livres numériques, c'est très peu de choses. C'est 0, virgule. C'est pas vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très important. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de librairie. Il n'y a plus de librairie. Schifrin, il raconte que quand il était jeune, pour gagner sa vie... Il travaillait dans les librairies de New York, il y en avait 300. Il y avait l'embarras du choix, il y avait 300 librairies à New York. Aujourd'hui, 3. C'est fini, il n'y a plus de librairies aux États-Unis. Donc là, on comprend que quand on habite le fin fond de l'Ohio, eh ben, on achète les livres numériques.
Et la vente en ligne, hein. La vente en ligne est toujours possible. Hein.
Ah oui, oui. Ou on achète en ligne. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Moi, j'ai un fils aux États-Unis, il achète des livres numériques et il achète sur Amazon. Il n'a pas le choix. Hein. La plus proche librairie doit être à 800 km.
Comment ça se passe quand on a un éditeur engagé qui a sorti les livres de Schifrin, qui a traduit les livres de Schifrin, qui a sorti aussi un ouvrage qui s'appelle « Le livre que faire » il y a une dizaine d'années, justement d'être pris en fait dans ces évolutions du marché, puisque c'est un marché, d'avoir vu aussi une transformation à la fois du métier, du secteur, la disparition de beaucoup de librairies, même s'il y a beaucoup de librairies qui ouvrent encore aujourd'hui. Comment on se situe par rapport à ça? Notamment par rapport à la vente en ligne, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise, puisque c'est le diffuseur qui s'en occupe.
Amazon est le premier client de la fabrique. Enfin, on a un seul client, c'est notre diffuseur. Hein. L'argent, il arrive que chez le diffuseur. Mais les livres de la fabrique, le premier acheteur, c'est Amazon. Mais on n'y peut rien. On ne peut pas refuser de vendre. Hein. On ne peut pas refuser de vendre. Le refus de vente en France est un délit. On ne peut pas refuser de vendre, on ne peut pas dire aux diffuseurs « vendez pas à Amazon ». La seule chose qu'on puisse demander, exiger du diffuseur, c'est qu'il ne fasse pas à Amazon des meilleures conditions commerciales qu'il fait à n'importe quel libraire. Pas plus de remises et surtout, pas de livres en dépôt. Dépôt, ça veut dire on envoie les livres et il paye à mesure qu'il les vend. Non, là, il paye comme un libraire. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Mais on ne peut pas empêcher cette société de... Ce qu'il faut, c'est bien... Quand on est comme ça entre nous, il faut vraiment dire vos livres, achetez-les au libraire. Ne les achetez pas sur Amazon. Quoi. Surtout, n'achetez pas vos livres sur Amazon. Achetez vos livres en librairie.
On va passer sur une dernière question. Comment se passent les choix pour les rééditions? Je pense notamment au texte de Déjac, à Bas les Chefs, qui a été publié par Champ Libre. Pourquoi ce choix? Et comment les projets sont amenés?
C'est vrai qu'on a publié pas mal de livres d'auteurs, disons des auteurs révolutionnaires du 19e, quoi. On a publié à la fabrique les meilleurs livres sur les journées de juin 48. Il n'y en a pas tellement. On a publié Prologue d'une révolution de Louis Ménard. On a publié un livre d'un étudiant qui s'appelait François Pardigon, qui s'appelle Épisode des journées de juin 48. On a publié un livre qui s'appelle Souvenir d'un révolutionnaire de Gustave Lefrançais. C'est un peu mes goûts, ça. Hein, la littérature révolutionnaire du 19e. Alors, je ne te dis pas qu'on en vend des palettes. Mais, là, il faut doser les tirages. C'est des bouquins qu'on va imprimer à 1500. Et au bout de 2 ans, on les a vendus. Finalement, ce sont des livres qui ne sont pas très chers à faire, hein, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de traduction. Ce n'est pas très cher. Et on les vend. Et ça contribue aussi à l'image de la maison, parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui font ça, qui publient Blanqui, qui publient Robespierre.
Est-ce qu'il y a des textes qui ont été publiés précédemment chez Maspero ou chez Champ Libre et qui n'ont pas encore été republiés à la fabrique ou ailleurs et que vous aimeriez encore publier?
Chez Maspero, on ne travaille pas tellement sur le catalogue de Maspero parce que les amis de la découverte ont les droits sur ce catalogue. Or, si on leur demandait, ils ne seraient pas contents de nous les laisser, mais bon, on leur laisse ça. Mais oui, il y a des livres du 19e et du 20e que C'est un domaine où on continue à réfléchir et à travailler et à lire la réanimation de livres oubliés.
Et est-ce qu'à contrario, il y a des ouvrages que vous auriez aimé publier et des projets qui n'ont pas pu se faire ? Pour différentes raisons, hein, d'ailleurs, pas forcément des raisons uniquement financières ou des regrets en fait, éditoriaux.
Ce sont la plupart du temps des raisons financières, c'est les grosses traductions. Les grosses traductions qui sont pas des, dont les auteurs ne sont pas des gens connus en France, ça c'est très très compliqué à ce que ça ne devienne pas des gouffres financiers. Et là dernièrement, j'ai vraiment hésité longuement sur un livre. Je donne cet exemple. Il y a une femme américaine, une chercheuse, une savante américaine qui est une experte de l'époque de la Russie stalinienne, qui a écrit un livre qui s'appelle, je ne sais plus le titre en anglais, mais enfin le titre français, ça serait La bande de Staline, quoi. The Stalin Team, Stalin's Team. Enfin, c'est la bande de Staline. C'est un livre très intéressant, très, très, très intéressant, qui montre qu'il avait autour de lui une bande qui a toujours été la même du début à la fin. Et que ce qu'on appelle Staline, en fait, c'est lui, mais c'est un groupe aussi. Et que les décisions, les grands moments, ils étaient là autour de lui. Un livre tout à fait intéressant. 500 pages. Traduction, 15 000, 18 000 euros, vente, bon.
Mais il ne peut pas y avoir des aides, hein.
Si.
Mais si. Qui ne couvrent pas le...
Non.
Non, d'accord.
Non. Ça, c'est... on ne peut pas se le payer, voilà. Hein, il faut admettre qu'il y a des choses trop chères qu'on ne peut pas se payer.
Et le cas d'une coédition serait envisageable sur ce genre d'ouvrage, hein ?
Une coédition...
Avec un éditeur ami. Hein, pour...
avec un... Non, c'est très compliqué, ça. Se mettre à deux éditeurs français sur un truc comme ça, non, c'est très compliqué. Et puis, ça n'empêcherait pas... Ça couperait le gouffre en deux, mais ça restera un gouffre. Non, c'est... Les traductions, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a des aides du CNL, du Centre National du Livre, de la région Île-de-France. Il y a des aides, mais elles couvrent 40-50% de chiffres qui sont... Enfin, pour une maison comme La Fabrique, mettre 18 000 euros dans une traduction, c'est vraiment... même si les 18 deviennent 10 après les aides, 10 000 euros... Un livre qui part avec 10 000 euros de traduction... Arriver à équilibrer ça, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup de... Soit beaucoup de cash flow, soit espérer d'avoir des ventes. Mais un livre comme celui dont je parle, sur la bande de Staline, bon, c'est pas un sujet d'actualité. C'est pas un auteur connu. C'est un livre dont on va vendre 2000, quoi. 2500. Pas 10 000, pas les 15 000 qu'il faudrait pour rentrer dans nos billes. Donc, il y a des choses, il faut admettre qu'il y a des choses trop chères, qu'on ne peut pas se payer. Hein, on ne peut pas rouler en Ferrari, ni publier des grosses traductions.
Pour terminer, je voulais qu'on parle d'un livre de Nathalie Quintane, hein, qui était publié il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, les années 10. Nathalie Quintane, elle est poète. Elle a publié beaucoup de poésie. Et pourquoi elle s'est tournée vers La Fabrique pour... s'est-elle tournée vers La Fabrique ou est-ce que vous êtes allé la chercher pour publier ce texte-là chez vous ?
C'est entre les deux. Parce que je ne suis pas allé la chercher parce que je la connais. Je la connaissais depuis un moment. J'avais lu ses livres publiés, qui sont tous publiés chez POL. C'est un poète, mais c'est pas un poète-poète, quoi. C'est pas, elle écrit pas en alexandrin. Elle écrit des livres qui ont un ton très particulier et que j'aime beaucoup. et je lui avais dit que si elle avait envie d'écrire un livre, comme elle fait d'habitude, sur des thèmes qui se rapprochent de nos préoccupations à la fabrique, j'étais preneur. Alors, elle l'a fait, et elle a écrit ce livre qui s'appelle « Les années 10 », qui est une série de textes. Les années 10, c'est les années 2010. Le premier texte, c'est une visite de Marine Le Pen à Digne. Et il y a un texte sur les Santons de Provence. C'est très, 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 très fin. C'est politique, tout à fait. Et je trouve que c'est très bien. Et c'est un projet que nous allons faire suivre par d'autres, de demander à des écrivains de leur proposer, de leur faire cette proposition. Voilà. On connaît ton travail, on aime ce que tu écris, et si tu veux écrire un texte, si tu te sens l'envie d'écrire un texte politique qui aille, qui soit pas un canard dans une couvée de poussins à la fabrique, qui ait quelque chose à voir avec les autres livres de la fabrique, eh bien, on est preneur. Et je crois que c'est bien de le faire. Je crois que sinon, finalement, si on reste dans les austères sciences humaines, on risque un jour ou l'autre de se dessécher un peu.
Merci beaucoup. Merci Eric Azan. Merci.